Éphésiens 1, ça y est, ça va marcher. Voilà, je sais où j'en suis. Donc, les versets 1 et 2, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait du bien, hein, voilà. Aujourd'hui, l'Église reçoit une lettre, vous vous rendez compte, à Éphèse, un jour, ils reçoivent dans la boîte aux lettres une lettre de Paul. Super. La lettre est arrivée dans la boîte de l'Église. Alors, je vérifie. D'abord, quand il y a une lettre, il y a un facteur. On a eu l'autre jour, c'était le 19 février, je crois, on a eu Richard qui nous a parlé des lettres qui arrivaient chez lui. Donc le facteur, là, il s'appelle Tichik, il est accompagné d'Onésime. Ils ont aussi une lettre avec eux pour Colosse, l'église de Colosse, et pour Philémon, qui est le propriétaire d'Onésime. Ça fait drôle, hein, de dire que Philémon est le propriétaire d'Onésime. Onésime, c'était un homme, hein, mais il était esclave. Donc, voilà. À cette époque-là, comme aujourd'hui pour Richard, le facteur passait pas souvent. Et donc, Éphèse, il est passé une fois. Hein? Mais, comme celui-ci, Richard, nous a rappelé, il est important de savoir à qui une lettre est adressée. C'est pourquoi j'ai pris que ces deux versets pour commencer. Alors, il y a des risques à ouvrir la lettre de quelqu'un d'autre et puis à se l'attribuer pour soi. Il nous a expliqué, Richard, on risque de payer les impôts du voisin. Gênant. Donc, on va regarder non seulement à qui elle est adressée, mais on va regarder, c'est aussi important de savoir qui vous écrit. Une petite anecdote. Un jour, j'ai eu sur ma porte, scotchée, pendant qu'on faisait les travaux, alors qu'on faisait bien attention d'être dans les heures réglementaires, j'ai eu une petite lettre. Vous êtes prié d'arrêter de faire du bruit, ça fait peur, enfin, c'était vraiment vrai. Et puis quelques jours après, on a continué nos travaux, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et il se trouvait que j'avais une façade à descendre, je vais descendre le crépi au marteau-piqueur, pas très discret. Donc, ce jour-là, on s'est dit, on va commencer à 9h30 du matin. Comme ça, on dérangera moins. On a complètement oublié que c'était un mercredi. Et le mercredi, les gamins sont en congé. Donc, paraît-il que le gamin qui se trouvait derrière a eu très peur. Bon, j'en sais rien, mais on remplit le gravat qu'on avait tombé et je m'en vais, comme c'était un mercredi, au Pouzin, le mercredi, la déchetterie est fermée, je m'en vais à la voulte. Et là, le téléphone sonne à la voulte, ma femme affolée, Michel, il y a un gars en bas de chez nous, il hurle, il dit que tu rentreras plus vivant dans ta maison, ceci, cela. Alors, je lui dis, ma chérie, dans un cas comme ça, c'est pas moi que tu dois appeler, c'est la gendarmerie. Oui, mais tu comprends, il a dit que si tu revenais, mais ma chérie, je te rappelle, j'ai été obligé d'élever le ton avec ma femme, elle voulait pas m'écouter. Donc, elle finit par appeler les gendarmes, moi je rentre tranquillement, et j'arrive pile au moment où les gendarmes arrivent. C'est impressionnant, un gendarme qui arrive, celui qui vous a menacé que vous rentreriez plus jamais vivant dans votre maison, ouf, il se tire. Et donc, moi, je vais garder la lettre et je continue et je lui montre la lettre. Et je lui dis, voilà, cette lettre, elle est anonyme, on ne sait pas. Mais de toute évidence, elle appartient à ce monsieur. Ça s'est très bien réglé. Ils sont allés voir ce monsieur avec la lettre. C'est vous? Oui, c'est vous. Ah bon, ben venez avec moi, on va aller chez celui qui a reçu la lettre. Et puis, ils ont réglé le problème. Donc, important de savoir qui est l'auteur d'une lettre. Quand on reçoit une lettre anonyme, se méfier. Donc, pour cette lettre que nous lisons aujourd'hui, la lettre aux Éphésiens, il y a eu des discussions sur l'auteur. Il y en a même qui ont remis en cause que l'auteur soit Paul. Ah oui, oui, Marie-François, oui. Et il y en a, voilà. Et il y a eu, on s'est même posé la question, est-ce qu'elle était adressée aux Éphésiens? Ça fait beaucoup pour une lettre, hein. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle plutôt une tendance libérale qui a eu une tendance à remettre en cause tout ça. Ce qu'on appelle les commentateurs conservateurs, c'est-à-dire, je simplifie, ceux qui croient que Dieu est Dieu et que sa parole est la parole de Dieu et qu'elle est sans erreur, ont retenu que l'auteur était Paul et que les Éphésiens étaient les destinataires en première intention, même si Paul avait l'intention de circulariser cette lettre ensuite dans l'Asie. Hein? D'ailleurs, on n'est même pas sûr qu'il avait l'intention de la circulariser. C'est une supposition. Alors l'auteur. Voilà, j'y suis. L'auteur. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il faut être gonflé pour écrire ça dans une lettre. Ou alors, il faut être inspiré par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas du tout indifférent que Paul se présente comme apôtre de Jésus-Christ. Les auteurs du Nouveau Testament savaient pertinemment qu'ils écrivaient de la part de Dieu, à l'instar des prophètes de l'Ancien Testament. Ils savaient qu'ils parlaient ou qu'ils écrivaient de la part de Dieu. Et donc, parmi ses apôtres, Paul en était un reconnu. Vous pouvez voir ça dans Galates, où il est dit que Jacques, Pierre et Jean donnent la main d'association à Paul. Il était reconnu par les autres apôtres. Et donc, Pierre était un apôtre, mais il s'était traité lui-même d'être parmi les apôtres comme l'avorton. J'ai noté 1 Corinthiens 15, 8, parce qu'il avait persécuté l'Église de Dieu. Donc, mais qu'est-ce qu'était un apôtre? C'est important de se souvenir, et je vous ai mis ici. Le terme apôtre signifie messager, représentant. C'est donc Dominique Angers qui écrit là. Paul l'emploie ici au sens fort. Il affirme représenter Christ. Il parle pour Christ. Il y a une délégation de pouvoir. Hein. Au même titre, donc, que les 12 apôtres que nous trouvons. Alors, il y en avait 11 dans les évangiles, plus 1 dans Actes, et Paul. Alors, ça paraît bizarre parce qu'on se dit, il y a toujours 12 apôtres. Vous savez, il y a 12 tribus d'Israël. Seulement, Jacob, pour les 12 tribus d'Israël, il a dit, stop, Joseph, 2 tribus. Ça fait donc 13 tribus d'Israël. Si on compte Éphraïm et Manassé. Donc, d'ailleurs, il suivait bien, Élie, il m'avait 13. Donc, voilà. Il y a des choses étonnantes comme ça quand on rapproche. Moi, je m'en suis aperçu que là, à cette occasion, 13 apôtres, 13 tribus d'Israël. Ah, bizarre. Éphraïm et Manassé, ça fait 13. Donc, j'en étais au terme apôtre. Et c'est par la volonté de Dieu que Paul est apôtre. Qu'est-ce que c'est? Comment voyons-nous la volonté de Dieu dans nos milieux évangéliques? Oh, je cherche la volonté de Dieu pour savoir quel travail je dois faire, qui sera mon épouse ou mon époux. C'est des questions qu'on se pose. Hein. C'est comme ça qu'on le voit, c'est les grandes décisions de la vie. C'est pas du tout dans ce sens-là que l'emploie Paul. Ici, en Éphésiens, la volonté de Dieu correspond au plan de salut conçu par Dieu. Et plus loin, on verra que Paul rentre dans ce plan. Paul se conçoit lui-même comme étant l'apôtre des gentils, des païens, comme vous voudrez, celui qui devait apporter aux non-juifs la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors c'est important de bien regarder ça parce que le fondement du Nouveau Testament est la parole transmise par les apôtres. Et elle est parole de Dieu. Hein? On retrouve cela dans les évangiles, dans les actes, dans les lettres et dans l'Apocalypse. Tout est parole de Dieu. Alors je vous dis ça et j'insiste là-dessus parce que quelquefois on a tendance à faire... Il y a des livres qui seraient plus parole de Dieu que d'autres. Un jour, je discutais avec une jeune fille. Je crois me rappeler que c'était à propos du mariage. Et elle me posait des questions. Alors, vous savez, les jeunes filles se posent beaucoup de questions sur le mariage. Et donc, et je prends dans une épître de Paul, de Pierre, enfin, je sais pas quoi. Je prends la réponse et je la lui donne. Alors, à ma grande surprise, elle me répond, oui, ben, je vais regarder ce que Jésus en dit. Ça peut pas marcher comme ça. Parce que, effectivement, la parole s'est faite chair. Et elle est venue parmi nous, Jésus-Christ a marché au milieu de nous, mais déjà, ces paroles nous sont rapportées par des hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, et toute la parole de Dieu est parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire que de Genèse 1 à Apocalypse 22, tout, c'est comme si Jésus nous parlait aujourd'hui. Dans l'auteur, dans une lettre, excusez-moi, il n'y a pas que l'auteur, il y a aussi le lieu de destination. Le lieu de destination ici, c'est Éphèse. Alors, Éphèse se trouve dans la Turquie, dans l'ouest de la Turquie actuelle. Vous avez, dans la petite carte en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, l'Italie, la Grèce, dans le carré rouge. Donc, c'est dans la Turquie actuelle, à peu près au milieu de la façade ouest de la Turquie. C'était la capitale de l'Asie, une province romaine. C'était le lieu d'entrée en Asie, c'est-à-dire que c'était aussi le port par où on entrait. On arrivait d'ailleurs, on entrait par Éphèse. Une des sept merveilles du monde antique y trouvait sa place. Le temple d'Artémis. Alors là, j'ai eu des photos de l'époque, mais ça a été difficile. Hein. Et Artémis, c'est celle que vous voyez sur la gauche. Diane Chasserès aussi. Et le temple d'Artémis, ça a été reconstitué d'après les ruines, bien sûr. C'est pas une photo d'époque, vous imaginez bien. Donc le temple d'Artémis c'était un lieu de culte très important. Et comme en témoigne la Bible, c'était aussi une ville de magiciens. Le livre des Actes en atteste. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Une pièce d'argent, si je me rappelle bien, c'était une journée de travail. C'est bien ça. 50 000 journées de travail. On a le droit, au bout de 50 000 journées de travail, de demander sa retraite. Hein? Bon. Donc, voilà le tableau. C'est pas brillant, c'est une ville païenne qui a un temple reconnu et où on exerce la magie. Et il y a des écrits sur Éphèse, on exerce la magie, c'était quand même, on se jetait des sorts, on se voulait du mal, quoi. On réglait les problèmes comme ça. Mais un jour, l'évangile arrive à Éphèse. faut pas que j'oublie que je suis là-bas. L'écran, c'est super pratique. Alors, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Alors là, quand on lit ce passage des Actes, on a Matthieu 28, vous savez, à la fin. Jésus leur dit, allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Là, Paul les a baptisés. Ensuite, Paul, selon son habitude, prêchait la bonne nouvelle dans la synagogue du lieu. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Donc on voit, là, c'est le passage, les enseignants à observer. Devant l'endurcissement de certains, Paul trouve un autre lieu pour enseigner durant 2 ans. Ensuite, Paul entra dans la synagogue. Non, c'est bon. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus, cela durant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Donc, là, Paul retire ses disciples, il les protège. Arrivé à un moment, souvent on se pose des questions, est-ce que nous devons... D'ailleurs, on l'a fait cette semaine, on s'est posé la question dans les groupes de quartier, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit être dans le monde pour aller leur apporter la parole, ou est-ce qu'on doit être dans l'église pour servir? On doit être, et ça, la réponse était, on doit être à la porte, prêt à pouvoir donner aux gens qui sont là, qui s'approchent, prêt à pouvoir leur donner ce dont ils ont soif, mais il ne faut pas qu'on s'éloigne trop parce qu'on va être vraiment plus que dans le monde, je dirais. Et il ne faut pas qu'on se mette trop dans l'église et qu'on se mette à part parce qu'on va devenir moine. Hein? Donc, être à la porte, ça c'était une grande leçon cette semaine. Donc, les gens de la synagogue s'endurcissent, peut-être parce qu'il y avait des Grecs qui venaient là pour écouter l'enseignement, on n'en sait rien, ça ne nous est pas dit, mais Paul se retire et il continue à enseigner les disciples pendant 2 ans. Il faisait que ça, Paul. Hein. J'ai lu que à Genève, j'ai entendu plutôt, c'était un podcast, qu'à Genève, quand Galvin y était, il prêchait 15 fois par semaine. Le matin, avant d'aller au boulot, il y avait un culte à 7 heures en été, à 8 heures en hiver, et on allait écouter prêcher Calvin. 366 sermons sur Ésaïe. Ça lui prenait que 6 mois. Il prêchait 2 fois par jour. Donc, vous voyez, et là, nous sommes au bénéfice de ça. C'est que, dès le début, attachés à la parole. Donc, Paul les a attachés à la parole, leur a enseigné. Et puis, l'impact de cet enseignement, parce que c'est pas tout d'enseigner, Il faut que l'enseignement, il impacte les gens. L'impact de cet enseignement est tout à fait extraordinaire. L'ensemble des Juifs et des Grecs de la province d'Asie entendirent la parole du Seigneur. D'ailleurs, des signes extraordinaires accompagnaient cette prédication. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou les mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies quittaient et les esprits malins sortaient. Alors, c'est extraordinaire, non? Ouais, Carmel, il peut me donner son mouchoir, il ne se passera rien. On peut se poser la question. Oui, ce sont des signes des temps apostoliques. Pourquoi? Le canon de l'Écriture, c'est-à-dire notre Bible complète. Le canon de l'Écriture n'était pas encore clos. Et donc, pour attester sa parole, le Seigneur faisait des miracles extraordinaires. Je vous invite, vous serez rentré chez vous, à regarder dans la Bible les périodes où il y a des miracles comme ça extraordinaires. Et vous verrez, c'est extrêmement cool. Donc, mais de toute façon, on reviendra sur le fait que les apôtres faisaient des miracles au chapitre 4 d'Éphésiens, Dieu voulant, hein. Mais, alors, que se passe-t-il? Comment Paul s'y est pris avec les Éphésiens? Premier point, Paul a pris les Éphésiens là où ils en étaient. Il a rencontré des disciples et il leur a dit « De quel baptême avez-vous été baptisés ?» Alors, c'est important de voir ce que cette ville d'Éphèse, c'était tout. Il y avait toutes sortes de gens dedans. Et donc, il y a un monsieur qui s'appelle Jason Borge, qui est missiologue et qui a regroupé en peu de choses les différents types de personnes qui existent, comment elles fonctionnent par rapport au péché. Premièrement, il y a trois réponses majeures au péché. Première réponse, culpabilité, innocence. Hein? Alors, les cultures dites culpabilité, innocente, souvent occidentales, quand on enfreint la loi, on est coupable, on cherche la justice ou le pardon afin de corriger la faute. C'est souvent une image des sociétés occidentales. C'est le cas des premiers disciples rencontrés par Paul. Ils étaient des disciples de Jean, ils se sentaient pécheurs, voilà, le baptême de repentance. Ils étaient dans la position d'accueillir Jésus, ils se disaient, mais quand est-ce que ça... Voilà, hein. Deuxième culture. Les cultures ont honneur, souvent dans les milieux asiatiques, d'Orient ou d'Extrême-Orient. C'est impressionnant. Regardez, lisez un article quand il y a une rencontre entre M. Biden et M. Xi Jinping. Ils ne peuvent pas se comprendre. Il y en a un qui est là, white, anglo-saxon, protestant, excusez l'accent, mais un Américain de base. Donc, je viens, j'ai raison, je suis américain et en plus, je suis protestant. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parfaitement. Et l'autre, la seule chose dont il a peur, c'est de perdre la face. Comment voulez-vous qu'ils se comprennent? Donc, honte, honneur sont des cultures collectivistes, surtout dans les pays orientaux, où les gens qui expérimentent la honte d'avoir failli aux attentes du couple cherchent à restaurer leur honneur devant la communauté. A priori, il n'y avait pas ce genre de personnes chez les Éphésiens. Mais je vous le donne parce que c'est toujours intéressant quand vous regardez les informations, de l'avoir toujours sous le coude. Troisième, les cultures peur-puissance. Alors là, voilà un endroit où les Éphésiens étaient passés maîtres, qui se trouvent dans des contextes animistes. Souvent dans les communautés tribales africaines, je peux vous dire qu'en Afrique, c'est pas du tout dans les communautés tribales que ça passe. N'Djamena, vous cherchez un sorcier, vous le trouvez. C'est une grande ville. Et donc, ces personnes-là, elles craignent le mal, la maladie, et elles recherchent une puissance dans le domaine spirituel à travers des rites et des pratiques magiques. Les Éphésiens pratiquaient la magie. Donc, il était important aussi de leur parler de l'au-delà. Je dirais du ciel, si je vais employer un mot de Richard, du sur-ciel, c'est-à-dire du lieu où habite Dieu. Qu'ils sachent que là, il y avait le souverain sur tous les esprits. Et aujourd'hui, mais déjà à l'époque romaine et même à l'époque grecque avant eux, il y avait une quatrième culture qui, elle, ne se posait pas de problème par rapport au péché. C'était une culture souffrance-plaisir, donc ce sont les hédonistes. Alors l'idée, c'est tout ce qui, quand je souffre, c'est mauvais, quand ça j'aime, c'est agréable, c'est bon. Hein? Ça n'existe pas chez nous aujourd'hui. Hein? On ne voit pas ça. Ça ressemble furieusement à nos cultures occidentales actuelles. Hein? Mais dans les classes les plus aisées, parce que c'est vrai que les esclaves et les ouvriers, au temps de l'Empire romain, ça ne leur arrivait pas. Mais dans les classes les plus aisées des Grecs et des Romains, c'était très en vogue. Ces trois manières de réagir sont toujours présentes chez nous, occidentaux du XXIe siècle, et souvent elles s'entremêlent. Je ne vous parle pas des gens qui se sentent coupables ou pas coupables, et puis qui cherchent, qui sont toujours à la recherche de quelque chose qui va les libérer de leur culpabilité, parce qu'ils savent qu'ils ne font pas bien. Un autre exemple, chez le notaire, en signant pour notre maison du cousin, on avait en face de nous trois personnes qui nous ont expliqué que le cousin était protégé par... Devinez par quoi il voulait protéger le cousin. Par... Mais bien sûr, c'est pas une vierge, enfin, la vierge, celle qui se trouve en face quand tu arrives. Mais alors, attendez, encore plus étonnant, c'est que depuis, elle est protégée. Bon, déjà, ils l'ont monté quand le rocher, il avait déjà descendu. Ils l'ont monté pour protéger, pour qu'il n'y ait pas d'autres rochers qui descendent. Il y a 200 ou 300 ans, il y a un rocher qui a balayé quelques maisons. Bon, mais là, j'ai entendu encore mieux. Il y a quelques années en arrière, il y a eu un incendie qui arrivait de l'autre côté. Et alors, vous savez, il y en a un qui est... Personne que je connais est allé dire à un vieux, il faudrait peut-être qu'on évacue. Mais la Vierge nous protège. Ah bon? Oui, oui. Et puis, elle porte le bébé du côté gauche, c'est notre versant. On risque rien. Alors, quelquefois, vous voyez, quand on me parle, j'ai rien à dire contre le monsieur qui me dit que c'est souvent on trouve de l'animisme dans les pays africains et au niveau tribal, mais alors, et puis, on pourrait rentrer, mais on va pas le faire. On a, nous aussi, évangéliques, hein, quelquefois, on a aussi des superstitions qui sont pas piquées des hannetons. Bon. Alors. Enfin, pour beaucoup de nos contemporains, on peut tout faire si on en tire du plaisir et que ça ne pose pas de problème aux autres. Mais le mariage pour tous, ça ne pose pas de problème, puisqu'ils s'aiment. Ah oui, et y a-t-il un Dieu? Parce qu'il y a quand même des règles. Hein. Avec le mariage pour tous, bientôt on n'aura plus de reproduction, il y aura plus, on va disparaître. Ou est-ce que éthiquement, moralement, ça se défend? Ah mais non, c'est bon. Alors bon, on peut faire ça au niveau de la nourriture et on récolte des maladies sexuellement transmissibles ou de l'obésité. ou toute autre chose, des abus, puisqu'on aime ça, on peut le faire. Donc, paradoxalement, ces gens d'il y a 2000 ans nous ressemblaient terriblement. Ou peut-être que le paradoxe, c'est que nous leur ressemblions. C'est vrai, on vit un peu plus vieux, on a des voitures, mais on leur ressemble. Alors, qu'a fait Paul? Je vous avais dit en premièrement qu'il les avait pris là où ils étaient. Deuxièmement, il les a amenés au salut. Troisièmement, il les a écartés des mauvaises influences. Il avait trouvé un endroit, comme à son bon habitude, la synagogue, mais il les a retirés de la synagogue parce qu'on décriait ce qu'ils disaient. Et quatrièmement, il les a formés en tant que disciples sans ménager son temps. C'est pourquoi, ayant fait tout ça, il peut écrire aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc à Éphèse, il y a eu des disciples de Jean-Baptiste qui ont expérimenté la conversion. Ensuite, dans la synagogue, des Juifs se sont sûrement aussi convertis. Assez peu, semble-t-il. Puis, puisque Paul a été obligé de sortir, puis, enfin, des Grecs se sont convertis. Les Éphésiens sont donc bien au bénéfice de la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, ils ont fait la paix avec Dieu. Et donc, ils ont fait la paix avec Dieu, et il y a quelque chose qui est marqué complètement dans ce premier verset que je vais vous relire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Dans ce passage, il y a 21 mots, il y a 20 mots et il y a deux fois Jésus-Christ. Tout est axé sur le Seigneur Jésus-Christ. Déjà, Paul nous indique, je vous écris, mais je vais vous parler de Jésus-Christ. Et on a vraiment quelque chose qui est complètement centré sur Jésus-Christ. Donc, voilà, nous pouvons conclure qu'avec Paul, que les gens qui sont à Éphèse, ils ont reçu la grâce de Dieu et ils ont reçu la paix de Dieu. Et tout de suite après, Paul va comme dire, il en faut plus. Et ça, c'est le verset suivant. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » À des gens qui ont reçu ça, de 2 ans d'enseignement, je vous rappelle, avec Paul. Bien sûr, on est quelques années plus tard. Ça doit faire une dizaine d'années plus tard. On est en 62 après Jésus-Christ, mais quand même, Paul leur dit « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Alors Paul avait l'habitude de mettre ça dans ses lettres. Mais pour moi, ça m'a un peu percuté là parce que je l'étudiais et je me suis dit « Que veut nous dire Paul ?» Premièrement, j'ai trouvé qu'elle touche à notre manière de bénir. Comment bénissons-nous les frères et sœurs? Et deuxièmement, elle touche à une autre chose qui est de quoi avons-nous besoin? Alors d'abord, comment bénissons-nous les frères? Dans l'Ancien Testament, je suis désolé, vous ne devez pas voir bien clair, mais je vais vous le lire. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Alors, dans ce verset, il y a des choses qui m'ont quand même, dans ces versets, il y a des choses qui m'ont quand même étonné. Premièrement, nous trouvons que dans la bénédiction que Aaron était chargé de donner sur le peuple, il y avait quoi ? Grâce et paix. Et alors, il y a une deuxième chose, je me demande comment Moïse a pu l'écrire. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Tu ne pourras pas voir ma face, car quiconque voit ma face meurt. Et pourtant, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Et alors, il insiste, hein, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Moi, je me dis, les Israélites, j'arrive à comprendre qu'assez souvent, quand Moïse était là, ils tombaient tous par terre en disant, en tremblant un peu de peur, parce que l'Éternel. Et alors, voilà que à quoi Dieu, enfin, ce que Dieu demandait de faire au souverain sacrificateur à l'époque. Encore une fois, alors, dans notre texte, dans une formule plus simple, hein, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, abrégé, la grâce et la paix, donc la grâce, vous avez remarqué que la paix, c'est la conséquence de la grâce. La paix est toujours citée en second. Hein? L'Éternel se dévoile comme notre Père. Alors, je suis en train de faire un parallèle entre les deux textes. L'Éternel se dévoile comme notre Père. Dieu, notre Père. Et pour ce qui concerne notre Seigneur, je n'ai pas trouvé mieux que ce qu'avait écrit Richard. Paul n'aurait-il pas dû dire de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur? Il a réécrit la phrase, il a inversé Jésus-Christ, hein, Seigneur Jésus-Christ. Oui, selon toute logique littéraire. Mais, je voulais même marquer, mais il veut vraisemblablement attribuer au Fils l'expression Seigneur Jésus-Christ, qui définit la totalité de sa gloire, expression qu'il reprend aussi au verset suivant. Hein? Paul annonce donc aux Éphésiens, par cette parole de bénédiction, qu'ils vont découvrir d'une manière plus profonde la grâce et la paix de la part du Père et de la part du Seigneur de gloire. Ils vont découvrir plus de grâce, plus de paix. C'est toi, Nathan. Ils vont découvrir donc plus de grâce et plus de paix dans ce que Paul va leur écrire. Et je crois que dans ce premier... Il va donc, Paul veut donner par cette lettre, approfondir tout ce qu'il leur a déjà donné. Après 2 ans d'enseignement, il va encore approfondir. Et en fait, on verra même que Paul va leur donner une nouvelle révélation, parce que la lettre aux Éphésiens, c'est ça, c'est une nouvelle révélation. Si vous voulez, vous pouvez lire du verset les versets suivants, 3 à 14, vous verrez que ça déménage. Hein. Alors, voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce texte? Bon. Dieu veut que nous découvrions plus et mieux la grâce et la paix qu'il veut nous offrir. Chaque matin, nous avons la grâce et la paix. Nous pouvons une nouvelle dose de grâce, ou tout au moins la grâce et la paix dont nous avons besoin pour ce jour. Et deuxièmement, c'est par sa parole que nous pourrons faire cette découverte. Vous posez pas la question. Si vous arrivez, moi j'arrivais pas à lire la Bible. Ça fait longtemps. J'avais 30 ans. Alors je me suis mis une discipline. Et j'ai réussi à la lire une fois par an. Ouais, c'est pas un bon résultat. Mais en entier. Hein? Et donc, voilà. C'est par sa parole que nous pourrons faire cette découverte de ce dont nous avons besoin chaque matin. C'est par grâce, tout à l'heure, vous a-t-il été dit que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et quand, c'est pas moi qui l'ai dit, mais quand on étudie ce passage que tu nous as donné tout à l'heure, qui se trouve aussi dans Éphésiens, c'est le don de Dieu se rapporte en même temps à la grâce et à la foi. Nous n'avons rien. Nous devons arriver chaque matin devant Dieu pour prendre de lui, parce que c'est ce qui va nous permettre de marcher